À CJSO 101.7 avec Luc Deloncourt, à deux, c'est mieux, c'est reparti.
De la belle visite aujourd'hui à deux, c'est mieux. Dominique Cotsin, salut.
Salut, comment ça va?
Ah bien toi?
Ben ça va toujours bien quand je te vois.
Oui?
Ben oui, pour vrai. C'est vrai, je trouve que c'est... On a toujours du fun, c'est toujours cool, c'est toujours des belles rencontres, puis j'ai toujours hâte de venir te voir.
Puis je te fais parler.
Puis tu me fais parler, puis aujourd'hui, juste vous dire, j'ai manqué un cabaret des stars et je me le fais rappeler, là je parle aux auditeurs, depuis que je suis arrivé que Luc est sur mon cas, puis pas juste Luc, tous les gens qui sont ici, qui sont allés au cabaret où je n'étais pas. J'en manquerai plus un,
mais tellement le fun, Dominique.
C'était bon. Ça a l'air que c'était bon, en plus.
Il y avait de l'agneau, puis tout, c'était super bon.
Pis en plus, la dernière fois que j'étais allé au cabaret, je t'avais parlé, hey, pourquoi on fait pas de la musique après, puis là, c'est moi qui choke, tu sais.
J'attendais ça, moi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Tu sais qu'en octobre, l'année prochaine, ça va être le 10e. Fait que ton idée de musique, là.
En octobre, l'année prochaine?
Ouais.
OK, on boucle ça. C'est réglé. Non, non, mais on arrête de niaiser, là. On le fait, là.
Je l'ai la
date.
Il faut
là.
Juste que toi, tu sois disponible. Dominique, on va parler de ton nouvel album, qui est, j'imagine, né pendant la pandémie. Là.
C'est totalement.
Le début de tout ça pendant ce temps-là.
Totalement. Né pendant la pandémie et né un peu partout dans le monde. C'est vraiment drôle. C'est l'album dans lequel, en termes d'écriture, je me suis le moins impliqué.
OK.
Mais c'est sur lequel j'ai travaillé le plus fort en studio.
OK.
Ouais, lui qui était à la barre de ça, c'est Matt Laurent qui a réalisé l'album.
Qui a jamais écrit autant sur tes trucs à toi.
Jamais. Jamais autant.
C'est ton ami depuis longtemps.
Oui, puis c'est un talent incroyable, mais c'est aussi, il y a une curiosité d'être vrai dans ce qu'il fait. Fait qu'il va chercher l'essence même de la mission qu'il a à accomplir. Puis là, ben là c'était du reggaeton. C'était l'inspiration reggaeton. C'était notre ligne directrice. Puis il écoutait des chansons que j'y envoyais. Puis il écoutait des artistes. Il écoutait tout ce qui se faisait. Pendant ce temps-là, il était en confinement. Il était avec Notre-Dame de Paris, en Asie. Il était en confinement à Taïwan, dans sa chambre d'hôtel. Puis c'est là qu'il écrit une grande partie des chansons. Puis un de ses colocs qui était sur la même distribution, qui était, lui, dans une autre chambre, en confinement aussi, Richard Charest, lui, il écrivait les textes. Fait que c'est vraiment drôle comment ça s'est passé. Là. Puis ça a été tout au long de l'année. Les chansons arrivaient, on envoyait ça à Richard, Richard écrivait. Mais Richard était en Italie, en France, ou avec Notre-Dame en Asie. Puis Matt, lui, pendant ce temps-là, ben c'est ça, il tournait. Puis c'est bien spécial. On dirait que cet album-là est teinté de l'international. Puis je le dis très humblement, mais c'est ça pareil.
Il n'y a pas même le fils de Matt qui a écrit sur le disque.
Oui. Veux-tu que je t'accorde au complet?
Vas-y, c'est Charlie. Okay.
C'est Charlie.
Fils de Matt Laurent et Harry Cuicui, pour ceux qui ont des enfants.
Exactement. Alors, on est en studio, on travaille avec Matt, on travaille sur les chansons. Puis son fils, il rôde autour. Puis il snappe des pocs dans le net, l'autre bord, dans l'autre chambre. Fait que là, des fois, Matt, il ouvre la porte. Charlie, on est en train d'enregistrer. Fait qu'il arrête de snapper ses pocs. Puis il se met à son iPad. Puis il fait ses affaires. Puis là, ben, plusieurs jours après qu'on ait commencé l'enregistrement, Charlie vient voir son père et il dit « Hey papa, j'ai écrit une chanson pour Dominique Cotsin. » Il avait 11 ans. Là, il va avoir 13 bientôt. Il avait 11 ans. Là, son père, ben, c'est cute, tu sais. Bon, fais-moi écouter ça. Donc là, il s'en va dans le studio à Matt. Et il fait jouer ça. Fait que papa fier fait comme « Mon Dieu, c'est donc bien bon. Hey, bravo. » Puis il se demande c'est parce que c'est mon fils ou c'est vraiment bon? Fait qu'il part, puis il s'en va voir Luca, qui est le designer sonore de l'album. Puis là, il fait entendre ça à Luca sans parler. Luca, il fait comme, wow, man, c'est hot, ça. C'est vraiment bon. Il dit, ouais, c'est ça, hein? C'est bon pour vrai. c'est mon fils qui écrit ça, Charlie. Bon, 11 ans. Puis la toune s'appelait Hola, Hola. Là, on a réduit à Hola tout court. Mais la musique de Hola que vous entendez, là, c'est exactement la même mélodie que lui chantait dans son iPad. Et ouais, c'est 11 ans. Fait que j'ai un hit d'un kid de 11 ans. Fait qu'imagines-tu, lui, plus tard, que ça va donner?
Ben, il y a déjà des trucs de soccer pour lui, à 11 ans.
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, quand il écrit à tune, puis que Matt a dit, hey, c'est bon, on l'a fait-tu, il m'a fait entendre. Je fais comme, mais hein, qu'on l'a fait? Richard m'a un texte, ça s'appelle Hola, puis on la chante. Mais là, Harry Cuicui est embarqué sur Internet et est allé ouvrir un compte pour de la soca à son fils d'11 ans. C'est clair. Hein? Moi, j'adore cette histoire-là.
L'album, tu voulais qu'il y ait le son reggaeton. Tu en as parlé tout à l'heure. Comment c'est venu cette idée-là? Évidemment, c'est un courant mondial très fort.
Totalement.
Reggaeton. En français, au Québec, pas.
Non.
Mais sur la planète au complet, mais les soundbanks qui se remplissent de reggaeton.
Ah non, mais je suis allé voir Maluma il n'y a pas longtemps, là, ben, il y a peut-être un an. C'est incroyable. Tu sais, J Balvin remplit le Sandbell. C'est vraiment un courant. C'est parallèle à la salsa. T'as encore la salsa qui existe. C'est plus puriste. Mais là, t'as le reggaeton qui teinte beaucoup d'autres artistes. Même Ariane Moffat en a fait un. T'sais, dans le fond musical, le reggaeton, c'est un beat qu'on aime. T'sais. Puis qui vient nous chercher puis qui nous donne envie de bouger. Puis moi, ben, cet artiste Maluma que j'aime énormément, ben, il vient vraiment me chercher puis me parler. Puis je l'ai découvert en même temps en même temps que je tripais sur une chanson de Mark Anthony, qui est mon artiste préféré. Ça s'appelle Felice Los Cuatro, qui avait fait une version salsa de cette chanson-là. C'est comme ça que je l'ai découvert il y a plusieurs années. Puis depuis ce temps-là, c'est que de l'ascension, son affaire. C'est rendu une star mondiale. Il est hallucinant à suivre. Sa musique est excellente. Ses mélodies sont bonnes. Donc, c'est de lui qu'on s'est inspiré beaucoup pour le son. Mais je vais te sortir le même discours que je te sortais les autres fois. T'sais, moi, mon but, c'est pas de faire du reggaeton. C'est de m'en approcher, mais à la Dominique Hudson.
Oui, oui,
moi,
oui,
je reste un Québécois qui chante en français, avec des structures musicales, puis les textes sont appropriés. Puis c'est ça qui fait, je pense, la couleur. T'sais, j'ai jamais dit que j'étais un chanteur de salsa. Puis je suis pas plus un chanteur de reggaeton, mais j'aime tellement le style que j'avais envie d'avoir un album teinté de cette couleur-là.
Mais est-ce que déjà, après l'album précédent, il y a eu comme une réflexion de où je m'en vais avec le prochain? Puis est-ce que ce sera vers cette couleur-là que j'irai ou c'est venu plus tard?
Ben, tu sais, dans le fond, après Ultima Danza, ça fait longtemps que je veux faire du reggaeton, que je voulais essayer cette touche-là avec du sable et de l'eau. On flirtait avec Quattro un peu aussi. Là, on est vraiment plus dans l'essence, on est beaucoup plus actuel dans le son. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'espère que dans les oreilles des gens, ça va bien sonner. Mais moi, j'adore la direction artistique de cet album-là. Mais tu sais, j'avais aussi l'autre fantasme de... Puis on y a touché un peu avec Ultima Danza, mais encore plus loin, de faire vraiment de la salsa avec mes tunes. Mais avec... J'avais un fantasme d'aller directement à La Havane, dans un gros studio avec full de musiciens cubains, puis leur dire « ça, c'est ma chanson, là ». Vire-moi ça à l'envers. Ouais. Amusez-vous. Puis écoute pas les paroles parce que de toute façon, tu comprends pas. Comme moi, je comprends pas Étienne. Fait que amuse-toi puis fais-moi de la salsa cubaine avec ça. Puis ça, c'était un fantasme. Puis j'ai pas renoncé encore à ça. T'sais.
Ouais, mais là, la pandémie empêchait pas mal ça.
Et la pandémie. On peut-tu pas en parler?
Mais c'est quand même.
On dirait que ça fait des années que c'est arrivé. Puis on est encore dedans. Puis.
Mais reste que ça a permis d'avoir les collaborations que t'aurais peut-être pas eu. T'sais, on a développé ces modes de communication-là,
ouais, t'as raison,
à l'international. T'sais, ce que tu as fait avec Matt, ce que tu as fait avec Richard, l'envoi de trucs, l'envoi de morceaux musicaux, on n'était pas super bon avec ça il y a 3 ans. Là.
Ben, t'as raison. Puis, vu que moi, t'as rajouté une couche, je t'ai parlé de Maluma. Mais Maluma, il y a un guitariste qui joue avec lui qui est extraordinaire. Il s'appelle Santi Torres. Ben, on l'a contacté. Puis, il joue sur une de mes tunes. En direct de Bogota, en Colombie, le guitariste de Maluma joue sur une chanson sur l'album qui s'appelle Entre nous, l'espace, qui est magnifique. Fait que tu as raison. Ça a ouvert des. Ça a créé des ponts dans le monde. Fait que c'est vrai.
Comment s'est fait cette approche-là avec lui d'ailleurs? Parce que. Évidemment, tu le connais zéro. Là.
Zéro, puis il me connaît pas plus.
Non.
Mais moi. Tu sais, moi, dans le fond, là, ce gars-là, c'est mon ami, comme Maluma, mais ils le savent juste pas.
Oui, c'est ça.
Mais ça viendra, peut-être. Mais dans le fond, c'est on est allé voir le show de Maluma. Et là, il y avait une chanteuse, j'oublie son nom, qui chante avec Maluma. Matt, il dit hey, « ça nous prend cette voix-là sur l'album ». Il l'a contacté, mais là, elle est enceinte, ça marchait pas. Puis on a aussi trippé sur Santi Torres, puis... Là, il a liké Santi Torres, puis là, Santi Torres a commencé à suivre Matt, puis à liker ses affaires. Il a fait « T'es un peu, toi. Tu vas jouer sur l'album de Dominique Hudson. » Il a écrit, puis il a fait comme « pas de trouble. » C'est débile. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire.
Est-ce qu'il a amené ta tune ailleurs? Évidemment, tu lui as envoyé, il savait à quoi s'attendre, il comprenait zéro, puis une base que tu disais.
Il n'y avait pas de parole dans ce temps-là.
Okay, c'était
juste la mélodie.
Musicale, okay.
Mais c'est vraiment beau, la façon que c'est joué. Puis tu sais... Matt a une belle humilité. Il aurait pu le faire. Il aurait pu jouer cette track de guitare-là. Mais l'essence d'un latin qui joue de la guitare, il y a peut-être quelque chose de bien différent qui ajoute à la couleur, là, c'est sûr.
Pour les gens qui sont ici, tu n'as pas amené d'album parce que c'est un coffret.
Ouais, puis c'est vraiment beau.
Alors qu'on est dans une ère où on sait même plus si on va faire des disques physiques. Ouais. Toi, c'est complètement autre chose. Tu prends la formule qui coûte plus cher.
Ben, tu sais, il y a deux façons de voir ça. Hein. Moi, j'ai pas envie.
Soit qu'on en fait un objet. Oh,
exactement.
De collection.
C'est exactement
gens,
ça.
Tant qu'à l'acheter, on va acheter de quoi de beau.
C'est ça. Puis en achetant l'album, les gens ont quand même le lien numérique pour leur téléphone, iPad, etc. Mais ils ont un coffret avec des. La pochette est extraordinaire. C'est un mini-livre. Puis toutes les paroles sont là. Puis on voit, parce que c'est plus gros que. C'est entre le CD et le vinyle, la grosseur de l'album. C'est quand même extraordinaire. Là. C'est vraiment une pièce de collection, tu l'as dit. Puis les gens qui le reçoivent, ben, ils ont. En bon français, la gueule à terre, t'sais, parce que c'est quelque chose de différent, d'unique qu'on n'a jamais vu. Puis là, j'attends mon vinyle avec impatience. Il y a eu du retard, mais ça aussi, c'est un beau trip. Ça me ramène.
Est-ce
à mon
enfance.
Est-ce
que c'est ton premier vinyle?
C'est mon premier vinyle.
Mais dès que j'en fait jouer, fait, j'en ai DJ, fait, toi, et... avec ton père, t'en as fait jouer des vinyles?
Je vais avoir le mien. Fait que t'imagines-tu quand je me suis débarrassé de mes tables tournantes techniques
ben,
de mon père?
Ça, tout le monde a fait ça.
Là, je m'en veux en tabarouette. J'avais trois tables tournantes techniques des années 80. Là. Puis je suis allé voir un monsieur pour qu'il me les répare. Il dit même avec les trois, si je prends une pièce des trois, je suis même pas capable d'en faire une.
Il
était magané. C'est des années de disco mobile puis de trimballage. Mais je vais m'en acheter un autre. T'es sûr, sûr, sûr.
Est-ce que ça va être un kick de mettre l'aiguille?
Ben non, je pense que je vais pleurer.
Flash qui vont
je pense que je vais pleurer.
C'est sûr,
j'ai jamais remis un. Ça fait longtemps que j'ai pas mis une aiguille sur un vinyle. Là. Mais c'est. Mon père est parti pendant la pandémie, puis j'aurais aimé ça qu'il voit. Lui, tu sais, je veux dire, c'est sûr que lui aurait eu une énorme émotion de voir son fils sortir un vinyle quand j'ai grandi avec ça. J'ai découvert la musique avec ça. La première chanson que j'ai écrite, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas d'Internet. Hey, ça fait-tu vieux, ça, dire ça, il n'y avait pas d'Internet? Mais il n'y avait pas d'Internet, puis j'écrivais les textes des chansons comme Encore et encore, puis je me souviens La vie par procuration de Jean-Jacques Goldman. Ouais. J'avais le vinyle de tout ça. Puis j'écrivais les paroles sur un papier, puis je faisais ça sur un vinyle. Fait que je partais le vinyle, j'écrivais la ligne, j'arrêtais, puis je revirais, je recommençais. Fait que tu sais, ça fait long. Puis j'étais petit, j'étais au lac Beauport, je devais avoir 10 ans, 9-10 ans. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de souvenirs pour moi attachés au vinyle. J'aurais des histoires
quand on
incroyables.
Te l'a dit, parce que j'imagine que c'est l'équipe qui t'en a parlé du vinyle, quand on t'a dit on va faire un vinyle.
Ouais, mais tu sais, c'est quand même une tendance qui est.
Oui, mais pas tout le monde en fait quand même. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en font, mais pas tout le monde non plus. Là.
C'est une pièce de collection en même
c'est
temps.
Plus cher. À la vente, c'est plus cher aussi.
Mais c'est pas si cher que ça. C'est ça qui m'a surpris. Je pense que c'est 40$ pour avoir un vinyle puis une pièce de collection. C'est sûr que si t'as pas de table tournante, ben ça va
c'est
virer.
C'est juste une pièce de collection.
Ça va virer en poster, mais si ceux qui en ont, c'est vraiment cool. Puis c'est ça va revenir, le vinyle. C'est pas vrai qu'il y aura plus. En tout cas, moi, je veux pas croire qu'il y aura plus jamais de physique dans nos mains pour écouter de la musique. T'sais. Ça nous paie. Parce que je trouve que le digital, c'est super le fun pour écouter plein d'affaires. Mais c'est bien rare que tu vas faire play sur du digital puis tu vas écouter l'album du début à la fin.
Ah, t'as raison.
Peut-être avoir une pub qui va popper parce que tu n'as pas payé ton abonnement. Il va peut-être avoir une playlist qui va partir. Ton téléphone va sonner. Puis là, ça va arrêter ton écoute. T'sais. Quand tu places une aiguille sur un vinyle, tu es pogné avec. Il faut même que tu te lèves pour aller le virer de bord. Fait qu'il faut que tu sois attentif. Là. Et moi, je me souviens, là, j'étais couché sur le divan chez mon père. Je partais un vinyle. Puis là, j'ouvrais la pochette. Puis là, je lisais toutes les paroles dans le petit affaire. Tu sais, le fameux sac dans lequel tu mets le vinyle, qu'on n'est jamais capable de remettre comme faux après. Là. Ça plie,
c'est de même qu'on scrape le vinyle, d'ailleurs.
C'est ça. Fait que c'est ça. Mais le pire souvenir que j'ai avec des vinyles, alors, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, là, mais c'est qu'on faisait de la disco mobile avec mon père. Puis moi, j'étais chargé de remplir le trailer, de vider le trailer, de m'arranger pour que tout aille bien. Et à un moment donné, les vinyles, j'ai pas pu les mettre dans le trailer. Je me souviens plus pourquoi. Je les ai mis dans le char, en plein été. Par une grosse journée ensoleillée chaude. Fait que vous dire que ma femme m'a laissé dans ce temps-là, c'était une chanson. C'est ma femme m'a laissé, il n'y a pas de femme qui m'a laissé. On parle de j'avais 15 ans, là. Mais les vinyles tout ondulés et tout ça. Fait que ne laissez pas traîner vos vinyles dans vos voitures. C'est
particulièrement
ça,
l'été.
La règle, particulièrement l'été.
Il y a une chanson qu'on connaît sur l'album, mais on connaît pas cette version-là. Tu chantes du Sylvain Cossette?
Ouais, en espagnol.
Comment c'est arrivé?
Oh boy, c'est la seule façon que Matt a trouvé de me faire chanter en espagnol, parce que je t'en ai déjà parlé, je veux pas, j'y tiens de chanter en français. Puis, en fait... Matt, il dit, ça nous prendrait une reprise que les gens s'attendent pas qu'on va faire, tu sais. C'est drôle de même, ça se place comme ça dans la vie des fois. Et là, il était dans une émission de télé avec Sylvain Cossette. Puis là, il jase, ben tu sais, il a jasé souvent avec Sylvain parce que c'est son chef musical, ensemble, c'est ouais. ça. Puis il jase avec lui du nouvel album. Fait que là, Sylvain, il dit « Ah ouais, c'est vrai, je voulais te faire entendre ça, j'ai écrit une toune pour Dominique, tu sais, je me suis amusé, tu sais, puis dans le style des Danza antécédents. » Fait que là, Matt, il dit « Oh, OK, c'est super bon, mais on s'en va pas là, pas en tout. T'sais. On s'en va vraiment plus reggaeton, plus actuel. » Fait que là, Sylvain, il fait comme « Ah, c'est correct. » Fait que là, il dit « Hey, c'est drôle, pareil, parce que dans le temps, là, c'est Sylvain qui parle à Matt, il dit « Dans le temps, il y a 30 ans, quand on a sorti « Tu reviendras », on avait commencé avec mon prof d'espagnol à l'époque à écrire, à traduire, parce que c'était tellement un gros hit, ah oui. à traduire « Tu reviendras » en espagnol. Ils disent, on n'a pas fini, mais je pense que je me souviens un peu du refrain, puis il a essayé de retrouver un peu comment ça sonnait. Puis Matt, il a accroché là-dessus direct, comme un signe du ciel, de l'au-delà. Puis il a accroché là-dessus, puis il a pas démordu de son affaire. Puis on a commencé une salsa, mais vraiment très, très enlevante. Moi, je la trouve extraordinaire. Je pense que c'est une des plus belles salsas que j'ai eues à date, là. En espagnol, toi. Puis j'ai eu de l'aide de Chacon, un musicien qui joue avec moi, qui m'a aidé avec toute la prononciation, comment bien articuler. Puis ça a été tout un défi de chanter ça. Là, faut que je la fasse en show, là. Mais pour vrai, c'est les gens, ils l'écoutent. Puis c'est quand même pas évident que tu la reconnaisses tout de suite. Puis quand tu comprends que le refrain, c'est si tu reviendras, c'est quand même cute. C'est quand même vraiment hot.
Qu'est-ce qu'il a dit, Sylvain, quand il a entendu ta version? Parce que lui, l'original, c'est un peu lui.
Il la connaît un petit peu. Mais il a trouvé ça super bon. Vraiment comme un wow, tu sais. Fait que là, Matt, il voulait juste essayer. Il disait, ça me prendrait des bacs là-dessus. T'es-tu game d'essayer ça? Fait que le but, c'était d'avoir Sylvain Cossette qui allait faire les bacs, ça tourne. Puis Sylvain a essayé. Puis là, je sais pas si je peux le raconter, mais je pense qu'il n'y a rien de méchant là-dedans. Sylvain, il l'a essayé. Puis il a répondu à Matt, il a dit, sérieux, ça fit pas en tout. T'sais. Ma voix sur celle de Dom, c'est comme, il y a comme un clash. Je trouve la chanson meilleure sans que je la chante. Fait que j'ai trouvé ça très hot de sa part d'être assez honnête pour dire, hey, c'est quoi, la tune est bonne de même.
Pourrais-tu refaire ça? C'est-à-dire, ben, si je pourrais faire des reprises, si je veux faire des reprises, ce sera les seules chansons que je ferai en espagnol.
Ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait longtemps que je veux faire un album de gros hits québécois en salsa. Ça fait vraiment longtemps que je veux faire ça. Puis Tu Volveras, c'est comme...
La porte d'entrée vers
la porte d'entrée. Puis, ben, en fait, c'est un gros essai que j'ai adoré faire. Mais tu sais, c'est pour moi, c'est de piler sur une décision que j'avais prise de le faire vraiment en français. Mais là, ça s'appelle un clin d'œil, t'sais, une nuance. Comme à Habana Baila, dans le temps, il y avait un refrain en espagnol. C'est des clins d'œil. Ça me va, je suis bien avec ça. Puis quand les titres sont en espagnol, je trouve ça cute. Mais de conserver ma langue, c'est vraiment important.
Tu as fait un Facebook Live cette semaine pour la sortie de l'album. Toi qui n'as pas tant donné dans le virtuel... Pendant la pandémie, c'était clair que tu allais faire un lancement parce que on n'a plus ben des lancements là, des gens partant. C'était clair que tu allais faire ça sous cette formule-là?
Absolument pas.
OK.
Absolument pas clair. Tu sais, je suis vraiment de l'époque des lancements. Là. C'est quelque chose que je trouve extraordinaire d'être devant les gens, de leur faire découvrir un nouveau son, de les voir avec leur album dans les mains. Mais. Tu sais, il s'est passé tellement d'affaires, il y a tellement d'insécurité dans tout ce qu'on a vécu. Puis j'ai réalisé aussi que de faire un lancement, c'est la meilleure façon de ne pas avoir le temps de parler au monde.
C'est clair.
T'as pas le temps. C'est comme quand tu te maries. Je me suis jamais marié, mais j'en ai vu en maudit des mariages. Puis les mariés, ils ont jamais le temps de parler à personne. Ils sont tout le temps en train de se frencher parce que ça fait ça. Là, ça doit avoir été agressant pour la station. Mais... c'était agressant pour moi aussi quand j'étais petit, puis tout le monde cognait sur le tasse puis le verre de vin. Fait que bref, c'est ça. Fait que, mais je trouvais que de prendre le temps, ça a duré presque une heure, mon monologue. Puis j'ai découvert que c'est hot aussi de prendre le temps de s'adresser aux gens qui sont là, puis de leur dire le processus, comment ça marche, tu sais, de parler d'anecdotes, de leur découvrir la pochette avec. J'avais jamais vu, je l'ai découvert avec eux en ligne, tu sais. Fait que c'était quelque chose que j'ai. Puis j'aime ça parler, j'aime ça jaser. Puis là, j'ai pris le temps de le faire.
Marqué.
Ouais. Ben, je suis comme toi, dans le fond.
Ben oui.
Puis c'est ça. Fait que je trouvais ça le fun. Évidemment, d'être sur une scène, c'est ce que j'aime le plus. Là. J'aurais aimé ça pouvoir, pouvoir le faire. Mais tu sais, on se reprend en spectacle. Là, ça, cet hiver, on remet ça.
Mais en même temps, c'est presque révolu, les lancements de disques. Là.
Quand même. Hein?
On les compte à peu près. Sur les doigts d'une main, ceux qui vont en faire cet automne, alors qu'avant, on avait 6 par semaine.
Ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Puis avant, les artistes, on était très, très demandés à y assister. Puis là, ben, tu sais, c'est
ah oui, parce que ça amène des Kodak.
C'est ça. Mais là, maintenant, c'est plus des demandes pour une première de spectacle. Là, tu as des demandes d'assister à la première de. Fait que c'est ça.
Et
c'est,
là, le lancement, en fait. Ça va
c'est un peu ça, tu sais. Puis dans le fond, tu sais, de. Un lancement, c'est pour célébrer une sortie d'album. L'album commence à prendre vie au moment où il est disponible à la vente. T'sais.
Mais c'est une pub beaucoup trop chère.
C'est extrêmement cher. Puis, comme je disais, tu vas aller voir ça, tu vas avoir 3-4 tonnes. Tu vas te déplacer pour 3-4 tonnes, puis avoir un album, puis voir 3-4 tonnes. Ben moi, je te dis, tu vas te
un
déplacer.
Mardi à 5 heures.
Tu vas te déplacer pour venir voir un vrai show au complet, en totalité. Puis tu vas avoir le temps de rencontrer l'artiste après, ce que dans des lancements, tu n'as jamais le temps de faire.
Non.
Fait que tu sais, en gros, je pense que c'est très positif. Puis ça donne le temps aux gens d'apprivoiser toute la nouveauté, puis d'arriver au spectacle qui va être pour ma part dans 3-4 mois. D'arriver au show et de dire OK, j'ai hâte de voir quelle chanson il va faire de l'album.
On va l'écouter Hola, qui est le premier extrait de l'album, qui a été lancé plusieurs mois avant la sortie de l'album et qui a super bien fonctionné. Ouais. Est-ce que ça donne confiance? Quand évidemment, on ne fait pas ça pour avoir un hit radio, mais est-ce que ça aide? Là?
J'aurais de la misère à dire qu'on fait pas ça pour un hit radio.
Okay.
Parce que c'est vraiment quelque chose qui est. En tout cas, pour moi, là, qui a grandi avec la radio, là, c'est dans mes gènes de jouer à la radio. C'est la chose qui me fait... Avoir des gens dans la salle, puis jouer à la radio, puis être à la TV, c'est ce qui me fait le plus plaisir dans ma carrière. Dans toute ma job, là, c'est ça qui fait le plus plaisir. Parce que c'est gage de reconnaissance de ton travail. Les gens sont là pour te regarder en show parce qu'ils ils aiment ce que tu fais. Les télés t'appelle pour aller faire une émission parce que c'est le fun de t'avoir, puis on veut t'encourager puis t'aider à avoir de la diffusion puis que les gens en apprennent plus sur toi encore. Puis la radio, ben c'est un statement de on veut que les gens t'entendent parce que c'est bon pour nous, mais c'est bon pour toi aussi. Fait que jamais je vais faire un album en me disant ah, c'est pas grave, ça jouera pas à radio, ça me dérange pas, c'est impossible. Fait que ça c'est un gros merci à CJSO de me jouer depuis tant d'années.
Oui, on en a joué beaucoup.
Oh, on en a joué beaucoup.
Dominique, la dernière fois que tu es venu nous voir, c'était pas au Cabaret des Stars, c'était ici.
T'es vraiment tannant, hein?
C'était pour nous parler de ton livre.
Ouais.
Duquel devait y avoir une comédie musicale. Bon. Et où? La comédie musicale. Es-tu là-dessus encore?
Eh oui, ben, dans ma tête, c'est.
Parce que la comédie musicale avait donné le livre. Le projet de départ, c'était la comédie musicale. Finalement, t'as fait le livre.
Exact.
Mais après, le but, c'était de ramener ça en comédie musicale.
Ouais.
Là, on en est où?
On a sorti un livre.
Oui.
Puis après ça, on a sorti un album.
Oui, oui.
Qui s'appelle Hola, qui sortait le 12 octobre. Fait que je peux te dire que j'ai quand même été dans le jus. Fait que, écoute, ben, c'est toujours dans ma tête et ça va se passer. Mais tu sais, des fois, il faut que tu priorises certaines avenues. Là. Tu peux pas tout faire en même temps. Je suis juste un homme. On peut plus dire ça, je pense. On peut plus rien dire. Fait que, bref, tout ça pour dire que ça va arriver. T'sais, la suite du livre, ça va peut-être retarder un peu parce que j'ai un nouveau spectacle à monter. Il y a une tournée qui va suivre de ça. Puis j'aimerais commencer à. Ben, en fait, recommencer à poser des bases pour la comédie musicale. Puis je pense qu'aussitôt que ça va repartir, ben, t'sais, d'autres idées vont venir pour la suite du livre. Donc, tu sais, j'ai quand même de la job en avant de moi, mais j'ai relu mon livre parce que je veux en écrire un autre. Puis je l'ai relu. Puis j'ai tellement écrit ce livre-là dans des conditions spéciales que ça m'a chamboulé de me lire. Il y a des affaires, j'ai comme hein, c'est moi qui ai écrit ça? On dirait que j'ai fait de l'écriture automatique.
OK.
Puis toute la correction, puis tout comment ça s'est fait avec Librex, qui ont été extraordinaires. puis comment ça s'est rendu aux gens, comment les gens l'ont reçu. On dirait que quand je le lisais, je réalisais tout le travail que j'avais fait pendant que mon père était à l'hôpital, pendant que c'était difficile dans ma relation de couple à ce moment-là. Comme, tu sais, tout était contre moi. Puis j'ai sorti un livre en pleine pandémie. J'ai fait le tour du Québec, aller porter des signets dans des livres pour remercier les gens. Tu sais, j'ai travaillé super fort. On dirait que tout ça, plus la pandémie, plus plein d'autres affaires personnelles, ça m'a comme un peu drainé. Puis j'ai repris comme un peu vie en travaillant sur l'album. Puis j'ai pris un gros break de réseaux sociaux aussi pour me concentrer sur moi. Parce que quand on fait de la musique puis on fait ce métier-là, ben t'sais, on donne. Mm-hmm. On donne, puis le public nous redonne en retour. Mais là, on dirait que j'avais besoin de me donner à moi. Si je veux offrir quelque chose, c'est important de le faire. T'sais.
Mais est-ce que cette pause-là forcée t'a permis d'encaisser tout ce qui arrivait dans ta vie? Ce qui aurait été plus difficile à faire si t'avais été en promo, en tournée, puis partout en même temps?
On appelait ça de la digestion.
Ouais.
J'ai parlé avec un de mes amis l'autre fois, puis il m'a dit, tu sais, dans la vie, là, la première affaire qu'il faut que tu fasses quand tu traverses une épreuve, là, c'est d'accepter. Après ça...
Ce qui est le bout le plus tough.
Après ça, tu digéreras, tu sais. Puis tu digéreras ce qui se passe, mais accepte. C'est pas toujours facile.
Encore moins quand on est partout.
Ouais. Encore moins quand on est partout. Ah, mais moi, il y a nulle part où j'aimerais être plus que ici, en ce moment.
Ben, c'est gentil.
C'est gentil.
Surtout quelques jours après la sortie de l'album.
Ouais, ça, c'est pour me faire pardonner d'avoir manqué le cabaret.
OK, fait que c'est pas vrai, dans le fond.
Hey, tu sais que je suis tout sauf têteux.
On l'a dit, changement de son sur ce disque-là. Est-ce qu'en tournée, tu vas adapter les classiques dans cet univers-là ou on va les garder comme ils étaient parce qu'ils ont été aimés comme ils étaient?
Ben, c'est... tu sais, moi, dans le fond, là, quand je vais voir un spectacle, il y a une chose que j'aime pas vraiment.
C'est quand on change trop la toune.
Non, c'est quand ça ressemble trop.
Ah, OK.
Ouais. Je sais pas si c'est parce que j'ai envie de pas de nouveau quand je vais voir un show, mais j'aime ça sentir que c'est live.
Ouais, je comprends.
Puis quand c'est trop pareil...
À l'album.
Ben, tu sais, tant qu'à ça, fais-les jouer puis chante par-dessus, tu sais, je vais même pas m'en rendre compte. Fait que j'aime ça quand, comme, je reparle de Maluma, Mark Anthony, des fois, il lâche son micro puis il fait chanter le monde. Puis, à un moment donné, je suis allé voir à New York puis je trouvais qu'il faisait trop. Mais ça chantait tellement fort, le monde capotait, tu sais. Puis c'est du live, puis c'est de la grosse salsa, puis ça donne des frissons de vivre ça. C'est pas des gros changements, mais c'est que si tu veux écouter l'album, écoute l'album. Si tu veux venir voir le show, ben c'est hot des fois que tu sentes que la chanson a vie, puis qu'elle prend vie, qu'elle est pas pareille comme tu l'as entendu, ça se peut, tu sais. Mais c'est ça le plaisir du live. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais revisiter probablement 6, 7 ou 8 chansons qui ont joué. Je vais nommer Danza, mettons. Mais je vais l'adapter au son de Ola. Fait que c'est une chanson qui va avoir 10 ans. C'est cool aussi que cette toune-là, on l'entende revivre puis reprendre vie, pas sous une autre forme, mais avec... Et pimper un peu, tu sais. Puis ça va être la beauté de la chose pour moi, ça va être ça. Puis évidemment, dans le spectacle, il y aura aussi une portion salsa traditionnelle où je vais m'éclater comme je le fais maintenant.
Mais de faire évoluer une chanson en show, il y a un côté kick pour l'artiste qui la chante d'être on the edge, en quelque part, parce que t'es pas dans des pantoufles, tu y vas avec...
Je suis plus dans mes pantoufles.
C'est pas un pilote automatique. Là.
Non, j'ai
tu peux
plus
pas dire je la chante comme je l'ai toujours chanté. Là, je l'amène ailleurs, fait que ça t'oblige à être on avec le monde, puis avec toi, puis le band, parce que... Faut que ça sonne comme la version que tu veux en faire.
T'as 100% raison. Puis j'ai eu cette réflexion-là cette semaine. On dirait que j'ai tellement fait de show depuis le début de Danza. J'ai gagné beaucoup en confiance. Et là, j'étais dans des pantoufles. J'étais bien à faire la même affaire. Puis là, on dirait que...
Oui, c'est réconfortant. Là,
c'est très réconfortant.
Le stress qui n'est pas là, c'est sûr.
Mais il manque, ce stress-là. Pis c'est ça que j'étais en train d'aller chercher parce que là, l'album, honnêtement, il est tellement bien fait, il a tellement été bien réalisé par Matt, j'ai tellement été bien coaché que j'ai la frousse de le faire en show. Parce que c'est touché comment on l'a fait, puis comment... respirer là, sur cet album-là, quand on chante, c'est difficile. Il y a de quoi dans. C'est techniquement très difficile, même si ça n'a pas de l'air complexe à chanter. Là. Fait que ça, faut que j'amène ça en show. Faut que je bouge. Je veux plus ma guitare pour la plupart des chansons.
Pour ne pas être pris physiquement en arrière.
Ouais, mais le show, tout le pacing, l'ordre des chansons, les chansons qui vont être sélectionnées. Les gens qui ont vu le show avant, ça sera pas ça. Là. Puis ça, c'est ce que j'ai de besoin, moi, pour repartir une roue.
Ouais.
Puis tu sais, Danza, on en a déjà parlé, toi et moi. Danza, ça a été le nom d'un projet derrière lequel je me suis caché.
Ouais.
Et là, c'est Dominic Hudson avec un album qui s'appelle Hola. C'est juste un titre d'album d'un gars qui a un son, puis c'est ça. C'est, appelle ça de la musique latine, appelle ça de la pop latine, appelle ça du pop urbain à saveur latine, comme tu voudras, tu sais, mais c'est du Dominic Hudson. Puis ça, je l'assume de plus en plus. Puis d'être déstabilisé avec les nouveaux shows qui s'en viennent, je trouve ça très hot parce que c'est juste une renaissance.
Donc, ton syndrome de l'imposteur s'en va?
Ah, il est plus là.
Parce que tu l'avais, on en a parlé la dernière fois. Longtemps, puis avec le livre aussi, tu l'avais eu.
Le livre, il est peut-être encore un peu là.
Mais tu l'as moins, là. Ou tu l'as plus, en tout cas.
Ben, en tant que chanteur, je l'ai plus. Je l'ai plus parce que je. Puis tu sais, j'ai. C'est pas une avenue facile que j'ai choisie, tu sais, avec ce style musical-là. Non. Fait que de se battre pour garder le cap, faire sa marque, je reçois des messages d'amis qui me suivent depuis longtemps qui félicite l'audace de continuer malgré que c'est pas évident. Puis ça, je trouve ça beau. C'est pas parce que c'est facile qu'il faut que tu le fasses. T'sais, si t'as quelque chose puis tu y crois, ben vas-y. Puis frappe-en des murs puis continue.
Ben, en fait, c'est de le faire pour le monde qui t'aime puis de pas le faire pour ceux qui en ont rien à faire.
De le faire pour le monde qui m'aime puis de faire ce que j'aime pour le monde qui m'aime. Parce que je pourrais m'inventer une vie aussi, là, t'sais. Puis, tu sais, moi, mon but...
Faire un son qui ne te ressemble pas du tout.
C'est ça.
Juste pour aller chercher du monde.
Ouais. Exactement. Mais ce son-là me ressemble parce que c'est tout ce que j'aime qui est là-dedans, dans cette musique-là. C'est ce son du Sud. C'est la chaleur des rythmes latins. C'est la langue française. C'est de faire danser le monde. C'est de les faire voyager. C'est de les faire triper. C'est ça qui m'habite. Fait que, tu sais, je dirais à la bonne place. Après ça, ben, ceux qui viennent, on va triper ensemble.
On a parlé de quelques collaborateurs sur l'album. Il y a Sofia de Medeiros qui travaille... Qui a travaillé sur l'album, la blonde de Corneille, mais qui écrit avec Corneille aussi. Comment c'est arrivé cette collaboration-là?
Bien, encore là, c'est une idée de parce que Richard en a écrit beaucoup, Richard Charest. Puis là, on s'est dit, bien, écoute, ça serait cool, pareil, d'avoir les mots de quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'il a approché pour mettre. C'est sur Siem Preparati qu'elle a écrit. Fait que c'est vraiment cool. Et c'est drôle comment Richard et elle sont arrivés avec la même idée de direction de texte et tout sur une musique. Faut croire que la musique parlait par elle-même. Là,
et que ça, le sujet les amenait à la même
exactement,
place.
Exactement. Fait que c'était drôle de voir ça.
Tantôt, tu disais que tu as voulu recruter la chanteuse qui travaillait avec Maluma. Mais il y a Sarah Dufour sur l'album, qui n'est pas la même, mais qu'on connaît, là, qu'on joue à CJSO.
Ouais.
C'est arrivé comment?
Une présence en studio. Puis, en écoutant la chanson, Sarah a dit « Hey, moi, je veux faire des bacs là-dessus, moi. » Qui est embarqué en arrière du micro. Puis Matt, il l'a coaché.
Mais avais-tu pensé au départ, cette tune-là, que ça pourrait être appuyé par une voix de fille?
Pas du tout. Pas du tout. C'était pas à la base... je me souviens pas... Hey, ça remonte, là, ça fait longtemps. Mais je me souviens pas si Matt avait dit « Sur cette tune-là, ça prend un bac de fille. » Je pense pas.
OK.
Mais c'est ça. C'est un beau moment. C'était le fun de voir Sarah travailler un autre style musical
complètement.
Le sien, tu sais. De la voir danser en arrière du micro, puis elle avait du fun, puis c'était cool de voir ça. C'était beau. C'est une personne qui aime aussi essayer des nouvelles affaires, tu sais, puis a tenté le coup, puis ça a bien marché. On la reconnaît, on porte très attention, mais son travail de juste venir appuyer le chanteur, elle l'a fait à la perfection.
Il y a trois dates d'annoncer. En ce moment, il y a évidemment du travail à faire avant ça. As-tu déjà décidé des chansons? Évidemment, les répètes ne sont pas faites, mais as-tu déjà réfléchi à quel... Parce qu'évidemment, on veut jouer l'essentiel de ce disque-là, mais il y a une place... Il y en a des disques, là.
Ouais.
Une place au hit aussi. Quel tu tasses, quel tu gardes, es-tu déjà là-dessus?
Bien ça, c'est la beauté de la chose, c'est la difficulté en même temps. C'est la beauté d'avoir assez de chansons pour faire de l'original d'un bout à l'autre. Puis la difficulté de ne pas décevoir les gens parce que tu n'as pas fait une telle. T'sais, moi, je me souviens, je suis allé voir les Eagles. Je les ai vus quatre fois en show. Puis à chaque fois que je suis allé voir les Eagles, Ils font genre 4 rappels. Puis à chaque fois après le premier rappel, je fais comme, mais non, tu peux pas finir. Tu peux pas finir, t'as pas fait Desperado. Deuxième rappel, fais pas. Tu peux pas arrêter le show sur le bout de ma chaise. Tu peux pas. Je vais être fâché. Troisième rappel. Puis quatrième rappel, Desperado tout seul au piano. Tu me tires à terre. Fait que ça fait des shows qui durent 2h30, 3h moins quart.
Oui.
Je sais pas si on va aller jusque-là, mais c'est important.
Il y a du monde qui sont prêts, en tout cas.
Ouais, c'est ça. C'est important de cibler les bonnes chansons pour que les gens soient contents. On fait du spectacle, puis on veut que les gens soient heureux de venir au show. Puis c'est là que je te disais tantôt la beauté de sortir un album, de laisser les gens le découvrir avant de partir en tournée. Tu sais, je vais connaître les coups de cœur. Moi, j'ai déjà les miens. Puis je le sais quelle tune je veux faire en show. T'sais. Puis quelle tune des autres chansons que je veux faire. T'sais, sur l'album Danza 2, il y a une tune qui s'appelle Cara Cara. Je veux la faire en show. Je ne l'ai jamais vraiment faite. Puis je l'aime, cette tune-là. T'sais. J'aimerais ça la ramener. Pendant toutes les années passées, je me suis fait demander beaucoup, beaucoup, beaucoup dans un café. Puis j'ai envie peut-être d'y retoucher ou de faire un
Donc,
genre de medley bachata. Non,
du passé,
pas juste.
Ça peut
pas
être
juste
des tunes du passé, mais sans ouais. que ce soit juste les hits.
Exactement. Tu vois, je me questionne, on se parle entre nous autres comme s'il n'y avait personne qui écoutait, parce que c'est ça, parler avec Luc Denoncourt. Mais, tu sais, Sunlight des Tropiques, là,
ouais.
Je sais pas si je vais la refaire encore. Okay.
Pourtant, ça
parce que marché. J'aimerais, oui, mais j'aimerais peut-être reprise. Aussi, tu sais, je vais garder Quand je vois tes yeux, ouais. qui est une reprise, mais j'aimerais beaucoup concentrer le spectacle sur des originales. Donc, il va falloir que je fasse un choix dans les reprises.
Puis là, tu vas faire « Tu reviendras », j'imagine, qui est une reprise.
C'est pas « Tu reviendras », la chanson,
ben non,
Luc.
Non, je sais bien, mais
c'est « Tu volveras ». Pratique ton espagnol.
Non.
« Tu volveras
». Mais tu vas la faire, j'imagine.
Ben oui, c'est sûr que je vais la faire.
Est-ce qu'il y a des tunes que tu fais pas, parce que tu dis « C'est une tune d'album », en show, ça serait difficile à la transposer? Il y en a de ça, des fois?
Ben, absolument. Vraiment, puis ça va être la beauté de la chose. Tu sais, il y a une chose que je vois. Tantôt, on a parlé, là, pour ceux qui étaient là quand on en a parlé, de mon plaisir d'aller voir un spectacle quand les chansons ne se ressemblent pas vraiment. Je vais revenir sur cette discussion-là en disant que les chansons de l'album qui est nouveau, tu sais,
se ressembler.
Elles vont se ressembler. Oui. Je veux qu'elles soient pas mal pareil. Le plaisir de refaire une chanson et de la modifier, c'est quand on parle de chansons qui ont 5, 6, 10 ans, tu sais. Puis ça va être le fun de faire ça. Mais tu sais, une Habana Baila, je vois pas comment je peux la changer autant, fait que je vais sûrement la faire pas mal pareil. Mais les chansons de l'album vont être identiques ou presque, tu sais.
Donc, il y a des chansons que ça se pourrait que ce soit pas là à cause de ça?
Du nouvel album?
Ouais.
Non.
OK.
Ils ont...
Tu vas tout le faire?
Non.
Non, okay.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, une chanson que je me dis « Ah, ça, je ne serais pas capable de faire ça en show.
Okay. »
Il n'y en a pas une. Okay. Ça n'arrivera pas. Tu sais, je suis trop un gars de show, de spectacle pour faire une tune que je ne serais pas capable de faire live.
OK.
Là, le défi que j'ai, c'est que je sais qu'il va y avoir des entrevues qui vont s'en venir puis qu'il y a des perfos à faire avec ça. Puis, ben, tu sais, le son est tellement différent. Puis, tu sais, c'est pas moi qui ai joué les guitares, puis c'est pas moi qui ai écrit les tunes. Fait que là, faut que j'apprenne à jouer l'album acoustique. J'ai un voyage dans le sud, tu en viens, là, au mois de novembre. Là. Mais tu sais, les
ouais,
gens
le
qui.
Le band ne suit pas. Ouais.
Non, le band ne suit pas. Mais j'en ai deux qui suivent. Mais tu sais, je veux dire, les tunes que je vais faire là-bas, ben, je veux faire mes nouvelles tunes.
Ah oui.
Fait que là, faut tout que je me remonte des versions acoustiques en plus de monter le spectacle puis de faire une entrevue d'une heure et demie avec Luc Denoncourt.
On va aller écouter 7 novembre à Studio 101.
Oui.
Ça fait longtemps que tu n'es pas
ça
venu.
Ça fait vraiment longtemps.
Je pense que tu es venu pour ton. Premier disque.
Quand j'étais
avant
allé,
Danza.
C'était avec Véronique Labbé.
Qui anime chez nous.
Ça doit faire 9 ans.
Ouais.
Alors. Que je parlais chez
ben,
vous.
Ben, t'es pas venu avec Danza. T'es
non,
jamais venu avec Danza.
Jamais.
Alors, ce sera une première. Avec Laurence Douard, match toujours avec des filles.
C'est correct, ça. Ça me va. Mais tu sais quoi? Je trouve ça hot parce que. Puis c'est souvent ça que je réalise à chaque fois que je prends ma guite en show, tu sais. C'est que les chansons qui ont joué beaucoup, là, mettons chez vous, c'est le fun après quand l'artiste les fait acoustique,
mm-hmm.
parce que tu les as beaucoup entendues. Puis là, ben, au Studio 101, ça va me permettre de faire ça, de refaire Danza, mais juste moi, comme je l'ai écrite, la donne. T'sais. Fait que c'est ça qui va être cool. Puis de faire 2-3 chansons du nouvel album Hola, genre Hola. Puis c'est ça, j'ai bien hâte, ça va être le fun.
Mais on dit souvent aussi qu'une bonne toune, quand on enlève tous les arrangements, ça reste une bonne toune.
C'est ça que Richard Séguin disait. Une bonne chanson, c'est une chanson acoustique qu'on peut emballer de la façon qu'on veut.
Es-tu d'accord avec ça?
Totalement. Totalement. Puis c'est la difficulté des grosses productions là, techno puis pop. Là, après ça, tu fais des versions acoustiques, puis c'est quelque chose. Là, Ed Sheeran, c'est le meilleur exemple. Lui, c'est une machine de guerre pour reprendre des grosses tunes, les faire tout seul. C'était écœurant.
Ça marche?
Ah, c'est incroyable.
Ouais. Là, il y a le voyage dans le sud qui s'en vient, pour toi, qui est une tradition.
Oui.
Mais qui a été amoché.
Ouais.
Est-ce que ça va te faire du bien de partir avec tes fans
totalement
dans le sud et d'aller totalement jouer cet album-là?
Ben, jouer l'album,
pas
mais...
pas tout, là, mais...
Sais-tu quoi? Ça va être... Je pense que c'est... Oui, c'est toujours un voyage musical, le plaisir de faire de la musique. Tu sais, je fais un petit 5 à 7 sur la plage, je joue au restaurant avec toute la gang, bon, on chante des tunes, tout, mais là, ça va être vraiment de retrouver les gens dans cette ambiance-là, là, dans mon habitat naturel, tu sais. Ça va être vraiment quelque chose de spécial. Ça va être très émouvant de retourner dans cet hôtel-là avec les gens comme on le faisait avant. Tu sais, de dire comme on le faisait avant, c'est rendu quasiment un cliché, là. Mais
à la limite, on le savoure plus parce qu'on nous l'a enlevé.
On le savoure.
Ça devenait, on parlait pilote automatique tantôt. Là.
Ouais, là, c'est
c'était
plus ça,
dans
là
l'horaire à chaque année.
Ouais.
C'était normal de le faire. Là,
puis
on
les
nous
gens,
l'a enlevé. Donc, on va le triper encore plus.
C'est ça. Puis les gens, il y avait un automatisme. Il y a un voyage, on y va. Là, il y a un voyage? Oh, attends un peu. On va être rendu où dans COVID à ce moment-là? Ça va-tu prendre des vaccins? On va savoir. Tu sais, là, on a des questionnements qui viennent autour de ça. Monétairement, même affaire, les vacances. Puis là, si je m'en vais là-bas, il va y avoir un confinement, mais que je revienne. Tout ça vient jouer dans la balance de dire, je vais-tu dans le sud ou bien je reste chez nous? T'sais. Puis ça, je trouve ça très, très difficile. Je sens que ça nous enlève notre liberté. T'sais. Mais ça va revenir.
Trois shows d'annoncer.
Mais quand on va être là-bas, par exemple, on va être libre en tabac.
Oui. Trois shows d'annoncer. L'Abbé, le 10-30,
yeah,
et Québec.
Ouais. Trois salles que j'adore.
C'était clair que ça partait là?
Oui, bien, c'est clair que ça partait au Saguenay.
OK. Pourquoi?
Parce sans enlever rien aux autres régions, évidemment pas. Parce que Québec, tu sais, je viens de Québec, Montréal, j'habite Montréal. Mais le Saguenay a quelque chose de bien spécial. Autre le festival des rythmes du monde, qui est le festival qui parle le plus au style musical que je fais, parce que c'est de la fusion, c'est une ouverture sur le monde, c'est des rythmes d'un peu partout, puis c'est ici que ça se passe. Mais l'accueil que j'ai là-bas, c'est quelque chose de... Puis quand tu commences un nouveau show, je pense que tu joues souvent sur le... Tu t'attends à un jugement. Clairement, en partant, là, les gens vont venir avoir du plaisir, mais ouais, j'espère que ça va être bon, là, le nouvel album. Puis là, ça trotte, c'est là.
On aimait ça avant, on a acheté un billet sur le avant.
C'est ça.
C'est ça. Quand on achète un billet, c'est sur ce qu'on a vu avant ou ce dont on a entendu parler avant.
C'est ça. Puis je vis très bien avec ça. Je suis très confiant, puis je vais faire le mieux que je peux pour donner un bon show. Mais je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose de sécurisant de commencer ça au Saguenay. Je sais pas pourquoi. Il y a une école de danse là-bas qui s'appelle Salsa Contigo qui va être là. Je vais avoir l'impression d'avoir des appuis solides autour. Puis, en même temps, c'est une belle place pour casser la glace. Puis après ça, passer par le 10-30, une salle qu'on a fait 3-4 fois, que j'adore. Puis d'être encore une coche de plus prêt à en donner plein la vue, tu sais, puis à combler le public qui va se déplacer pour y être. Puis après ça, ben passer par Québec, ma ville, tu sais, à l'Impérial, une salle débile. Fait que, tu sais, il y a comme un processus, puis dans ce métier-là, ça vient avec la confiance.
Mm-hmm.
Puis quand tu y vas par étapes, ben tu gagnes en confiance.
C'est sûr.
Fait que c'est un peu ça, le parcours.
Et est-ce qu'il y a un côté encore émouvant à Québec?
Ah, toujours, toujours.
Parce que c'est là que ça a commencé.
Mais tu sais,
les discos mobiles, c'était là. C'est
ben
là,
oui, c'est juste là, les discos mobiles.
Il y a des gens qui viennent, qui t'ont engagé à des mariages,
c'est ça,
j'imagine.
C'est
qui sont
ça,
dans
puis moi, à des mariages en disco mobile, comme chansonnier après ça, tu sais, dans des parties, puis qui m'ont vu dans les bars. Puis, fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui ont vu le parcours.
Mm-hmm.
Puis, honnêtement, parce que je dis toujours tout à Luc Denoncourt, je. J'aimerais ça, le sentiment que j'ai quand je suis au Saguenay, j'aimerais ça l'avoir chez nous.
OK.
Tu sais, l'accueil, la réception, l'appui, puis tout ça. Mais je sais pas si c'est parce que j'habite Montréal maintenant que je le sens moins, tu sais, mais je le sens beaucoup au Saguenay. Puis ben c'est ça, je les remercierai jamais assez. Puis voilà, c'est juste dans le fait que le début soit là, ça va juste me donner plus confiance pour la suite.
Et après ça, c'est la tournée. Là, il y a 3 dates d'annoncer, mais après ça, le souhait, c'est la tournée. Là.
Exactement. On va les aligner, puis les festivals. Tu sais, avant, quand tu faisais, quand tu sortais un album, il fallait que tu fasses les salles avant d'aller en festival, mais c'est plus vraiment vrai. Aujourd'hui, tu peux faire un show en festival qui va être vu par plein de monde, puis tu peux aller en salle pareil après. Oui, oui. C'est pas les mêmes gens qui consomment les mêmes spectacles. Fait que je pense que ça va être une belle année.
Pourrais-tu aller faire des shows dans des pays latins? Ou parce que tu chantes en français, ça se peut pas? Ou t'as pas l'intérêt?
Tu quoi? Je vais dire ça. Mais on va te le dire. Quand tu si tu chantes en anglais, tu peux aller faire des spectacles dans des pays latins. Quand tu chantes en espagnol, tu peux venir faire des spectacles au Québec. Tu peux aller faire des spectacles en Angleterre. Tu peux aller faire des spectacles en Russie. Moi, je pense encore que la langue française peut voyager autant que l'espagnol et le français. Ce qu'on veut, c'est de la bonne musique, des bonnes chansons. Fait que je continue ma trajectoire vers cette idée-là. Ça me tente.
Tu l'as, ce souhait-là, d'aller là?
Totalement. Totalement. En français.
Oui, c'est ça.
Quelques tunes en espagnol pour le plaisir.
Puis de peut-être leur parler en espagnol.
De leur parler en espagnol. Peut-être une couple de chansons en anglais, parce que j'ai tellement chanté d'anglophone dans ma vie que c'est bien cool. Mais le projet, c'est en français. Puis si je voyage, ça va être dans cette langue-là.
Dominique, merci de m'avoir été là.
J'haïs ça quand tu me dis ça tout le temps à la fin. C'est tout le temps fini. Trop vite.
Merci d'avoir été là. Ce sera les mêmes questions le 7 novembre.
Ben moi, là, est-ce que je suis, parce que là, ceux qui l'ont manqué, est-ce que je suis, Luc a franchi le cap des 10 000 entrevues cette semaine. Est-ce que je suis... Ben, bravo, totalement.
Merci.
Est-ce que je suis ta 10 millième une, 10 000 une?
Non, c'est 10 000, il y a 3, je pense.
Je suis 10 000 3?
Ouais, quelque chose genre.
10 000 3, 4?
Chose du genre.
10 000 4.
Voilà.
Uno, dos, tres, cuatro.
Et voilà. Merci, Dominique.
Merci, Luc.